Le journal présenté par Diana D'Acosta, bonjour.
Bonjour, la passe de Troyes pour Yvan Perrin. Le tribunal fédéral a confirmé ce matin l'acquittement de l'ancien conseiller national UDC dans une affaire de discrimination raciale sur Facebook. Retour sur cette affaire dans cette édition. Ce vendredi, c'est un jour spécial dans plusieurs communes de Suisse, la Journée internationale de la danse. Elle avait officiellement lieu le 29 avril, mais elle est célébrée aujourd'hui dans la région, comme à Tavannes, où 4 classes d'école primaire ont présenté ce matin un spectacle de danse. RJB y a assisté, vous l'entendrez. En sport, Stan Wawrinka s'est incliné face à Novak Djokovic hier au tournoi de Rome. Mais à l'heure du bilan, le tennisman vaudois préfère relativiser, on l'entendra dans cette édition. Météo News nous annonçait de belles éclaircies dès la fin de matinée. Pour l'instant, le ciel est encore bien chargé, mais on dirait que ça pourrait commencer à se découvrir. Les nuages feront à nouveau leur apparition en deuxième partie de journée. Demain, le temps sera globalement ensoleillé avec tout de même la présence de nuages résiduels. Grand beau prévu ensuite pour dimanche. Un grand ouf de soulagement pour Yvan Perrin. Le tribunal fédéral a confirmé aujourd'hui son acquittement dans une affaire de discrimination raciale sur Facebook. Le ministère public neuchâtelois lui reprochait d'avoir maintenu des commentaires litigieux de tiers sur son mur, mais l'ancien conseil national UDC avait été acquitté en première et deuxième instance. Finalement, les juges de Monrepos ont confirmé la décision des tribunaux neuchâtelois. Pour Yvan Perrin, il s'agit d'un grand soulagement.
C'est quand même une combine qui me suit et me poursuit depuis 3 ans. Et je suis assez satisfait d'en voir la fin et surtout d'avoir une fin heureuse.
C'est une belle revanche.
Alors, je dirais que c'est une reconnaissance de mon bon droit. Le procureur voyait dans mon activité sur Facebook une foule de délits divers et variés. Et le tribunal fédéral, en troisième instance, lui donne tort. Donc c'est quelque chose qui me satisfait. C'est aussi surtout une victoire pour la liberté d'expression, et notamment la liberté d'expression au niveau de l'avancée de l'islamisme en Suisse. C'est une dénonciation qui avait été déposée par une association très liée à une autre association musulmane bien connue dans les montagnes, et qui visait à faire taire les opposants à cette politique d'islamisation. Et là, manifestement, l'association qui a dénoncé et désavoué, ça me fait beaucoup plaisir.
Le tribunal fédéral a estimé qu'Yvan Perrin ne pouvait être tenu pour responsable car il ignorait le contenu des messages. L'accusé se défendait notamment de ne pas pouvoir modérer toutes les réponses de ses publications. L'arrêt du TF est jugé valable mais problématique par Bertil Cottier, professeur honoraire à l'UNIL et spécialiste en droit des médias.
Mes conclusions sont assez embarrassantes, je dirais, parce que d'un point de vue strictement juridique, je ne peux rien reprocher au tribunal fédéral. Il applique un principe fondamental du droit pénal, qui est celui de la prévisibilité, pas de peine sans loi. Autrement dit, on ne va pas par une interprétation extensive des normes pénales, disons, sanctionner des gens pour des faits qu'ils ne pouvaient peut-être pas prendre en compte ou imaginer.
Alors, quelles pourraient être les implications pour l'avenir avec cet arrêt ?
En fait, il y a une situation qui est désagréable, qui est celle que celui qui a un compte Facebook et qui accepte des commentaires, en fait, n'est pas tenu d'aller regarder ce qui se dit sur son compte. C'est cette obligation de monitorer. Et dans le système, il serait bon maintenant que le Parlement, puisqu'il faut respecter le principe de l'égalité, aborde cette question et légifère.
Un sujet réalisé par Adrien Juvet et David Sanchez. Des enfants de Tavannes se sont joints à des milliers d'autres le temps d'une chorégraphie. 4 classes de l'école primaire ont pris part à la journée mondiale de la danse. Après avoir appris leurs mouvements depuis plusieurs semaines lors d'ateliers, les élèves ont présenté leur création ce matin en plein air à leurs camarades ainsi qu'aux parents et la population invitée pour l'événement. Au total, c'est plus de 2000 classes à travers le canton de Berne qui ont appris cette danse. Émilie Mumenthaler a assisté à cette représentation à Tavannes.
Comment tu t'appelles ?
Chelsea.
Et quel âge tu as ?
10 ans.
Alors Chelsea, est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous avez fait ce matin ?
Aujourd'hui, on a fait une danse. On a tous eu des t-shirts blancs pour représenter la paix. C'est une danse pour l'école, pour toute l'école, pour tous les continents du Jura bernois. On a fait cette danse-là pour montrer aux parents, aux élèves, comment la paix, c'est bien.
Vous vous êtes entraîné longtemps ?
Oui, 3-4 semaines.
C'était dur à retenir tous les mouvements ?
Non, c'était pas si dur, mais certains mouvements, oui.
Tu fais de la danse aussi en dehors de l'école ?
Oui, souvent chez moi, je fais de la danse, je m'amuse dans ma chambre. Je fais de la danse en privé, j'aime bien ça.
Anouk Lehner, vous êtes chorégraphe. Est-ce que vous pouvez nous parler de la chorégraphie ?
La musique s'est faite spécialement pour cette danse-là. Et puis la chorégraphie, ouais, c'est pas super facile, je pense, pour les enfants. Mais quand même, il y a beaucoup des choses dedans qui font plaisir pour le faire. Parce que c'est un peu acrobatique, on doit aller par terre, on va en haut, on fait des trucs slow motion et des trucs assez vite. Et on doit vraiment danser ensemble parce qu'il y a des directions et des positions. Ouais, c'est comme une peinture de le regarder. C'était magnifique comme ils ont fait.
Voilà, et vous retrouverez la prestation des 4 classes de l'école primaire de Tavannes dans le cadre de la Journée mondiale de la danse en vidéo sur notre site rjb.ch. Vous avez probablement conservé précieusement un objet, un livre, des photos, mais surtout des souvenirs. L'Expo 02 a marqué les esprits il y a 20 ans grâce à ses emblèmes que furent le nuage d'Yverdon, le monolithe de Morat, les tours de Bienne ou les galets de Neuchâtel. Du 15 mai au 20 octobre 2002, plus de 10 millions d'entrées ont été enregistrées sur les 4 sites ainsi que sur l'arte-plage mobile du Jura. La région des Trois Lacs a aussi accueilli 39 expositions durant les 159 jours de la manifestation. L'Expo 02, c'était aussi des crises à surmonter. 20 ans plus tard, sa directrice revient sur quelques moments intenses, Nelly Wenger.
Tout le monde se souvient qu'Expo 01 a été en crise majeure en 99. Et je me souviens d'une nuit, on parle souvent à la Confédération de la nuit des longs couteaux. Et ça a été vraiment une nuit blanche passée au Beau Rivage Palace avec Pansy Mathé, qui était président du comité stratégique de l'époque, à vivre en fait ce qui devait être au lendemain matin l'abandon du projet. J'ai gardé une admiration sans borne pour Pansy Mathé parce que la situation était grave, elle était désespérée et j'ai été éblouie, vraiment frappée par sa volonté de nous convaincre que ça restait faisable, mais aussi par son abnégation. Mais je crois que j'ai tellement vécu cette exposition nationale pendant ces avant et pendant ces 159 jours que pour moi ça forme un tout. C'est plus un souvenir diffus comme un rêve un peu évanoui.
Et ce rêve, il vous manque ?
Ce rêve-là, non, parce que je l'ai vécu pleinement et les rêves sont faits pour s'évanouir. Mais ce qui me manque, c'est peut-être l'intensité de certains moments. Mais cette intensité, ça reste un moment très, très important de ma vie, c'est sûr.
Et l'Expo 02 a aussi marqué son porte-parole. Il nous rappelle la difficulté de l'organisation d'un tel événement, Laurent Paoliello.
Le projet en tant que tel était fou. Il fallait construire de l'éphémère, ça allait coûter très cher et pas construire donc pour 100 ans ou 1000 ans comme on l'a toujours fait en Suisse. Donc à l'époque, les prémices de l'écologie, c'était qu'on ne voulait pas avoir d'impact sur l'environnement. Ce qui maintenant en fait ne permettrait peut-être plus de faire la manifestation parce qu'on ne pourrait pas mettre autant d'énergie pour que ce ne soit pas du développement durable. Donc c'est un peu ambigu. Mais à l'époque, c'était de la folie d'imaginer construire quelque chose que pour 6 mois. Les gens, ils nous regardaient, c'était fou comme projet. Et c'était des doux rêveurs qui le proposait, mais avec les pieds bien ancrés sur terre.
Si je vous dis, maintenant, vous fermez les yeux, vous les ouvrez, quelle image vous revient d'Expo 02 ?
Le monolithe, c'est tellement une image que j'ai retenue en premier et en dernier.
Un sujet de Sarah Massy et d'Adrien Juvet. Les prix vont continuer à augmenter en Suisse, mais pas les salaires. Des perspectives sombres dépeintes ce matin par l'économiste Sergio Rossi, invité de nos confrères de la RTS. Le professeur à l'Université de Fribourg appelle à une intervention de l'État pour soutenir les ménages des classes moyennes et inférieures. La Confédération se défend face aux critiques émises sur le rôle de la Suisse avec la Russie de Poutine. Fin mars, le secrétariat d'État à l'économie, le SECO, indiquait que le total des sommes d'argent gelées se montait à 7,5 milliards de francs. Grâce au signalement des banques suisses, plus de 2 milliards supplémentaires l'ont été entre-temps, mais 3,4 milliards ont été bloqués à tort et libérés. Au responsable du SECO, Erwin Bolliger, en retient l'aspect positif.
Le système fonctionne bien, les banques sont actives, proactives, et puis nous demandent, on fait une analyse basée sur des documents, on le contrôle et on ne peut pas bloquer des valeurs où on n'a pas la base légale, autrement on risque d'avoir un procès.
Par contre, du côté des avocats en Suisse, une clarification était nécessaire pour leur rappeler aussi leurs devoirs.
On a vu qu'il y avait des discussions sur la relation entre l'obligation de notifier chez nous, basée sur la loi sur les embargos et la loi sur les avocats. L'avocat conseil dans des domaines financiers, par exemple, là, il n'est pas protégé par le secret d'avocat.
Donc, ils ont l'obligation de s'annoncer.
Voilà, c'est ça.
Mais est-ce qu'il peut y avoir une ambiguïté, justement, dans ce rôle d'avocat? Est-ce que la limite est claire, nette?
Je pense que la limite est claire pour un avocat et si jamais il y a un doute, c'est au tribunal de décider, c'est pas nous. On est une autorité, on a un avis, mais à la fin, c'est un tribunal qui doit décider.
Un sujet de nos correspondants à Berne, de notre correspondant à Berne, Frédéric Nejatoulami. Quant aux critiques sur le rôle de la Suisse dans le négoce des matières premières russes, le responsable du SECO rappelle qu'à l'heure actuelle, l'Union européenne n'a pas encore décidé de sanctions à ce propos. Les membres du G7 sont unis pour soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire. La déclaration du ministre français des Affaires étrangères ce matin lors d'une réunion du G7 en Allemagne. Mais nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Il y a un agresseur et un agressé et nous soutenons l'agressé, précise Jean-Yves Le Drian. La Grande-Bretagne demande à fournir davantage d'armes à l'Ukraine et renforcer les sanctions contre la Russie. L'UE a d'ailleurs décidé de fournir une nouvelle aide militaire, une somme de 500 millions d'euros au profit de l'Ukraine pour l'aider à se défendre. Le financement de l'UE pour soutenir l'effort militaire ukrainien sera ainsi porté à 2 milliards d'euros au total depuis le début de la guerre, le 24 février.
Il est midi 27, c'est l'heure du sport.
Sport.
L'équipe de Suisse veut faire fondre la glace en Finlande. Les hockeyeurs helvétiques entament demain le championnat du monde. Un mondial qui, lui, commence cet après-midi à Helsinki et Tampere. La sélection de Patrick Fischer aura l'Italie comme premier adversaire dans le groupe A. Elle affrontera ensuite le Danemark, le Kazakhstan, la Slovaquie, le Canada, la France et l'Allemagne. Les Suisses visent clairement les médailles. Ils possèdent les arguments pour y parvenir, selon l'attaquant Tristan Chervet.
C'est souvent un peu les qualités que le Patrick Fischer nous amène dans l'équipe. C'est le fighting spirit, c'est la fin de vouloir gagner, de patiner, d'être agressif, d'être intense sur l'adversaire. Je pense que, comme il nous l'a toujours dit, nous les Suisses, on a toujours été de très bons patineurs, on est très rapides. Donc c'est vraiment une force qu'on doit amener sur la glace pour vraiment aller chercher ces momentums au courant du match pour avoir après la petite différence à la fin. J'ai l'impression que la Suisse, au jour d'aujourd'hui, elle est arrivée si loin où elle peut vraiment y croire, aller jusqu'au bout. Mais c'est le travail qui reste à faire, c'est le long chemin qu'il faut aller petit à petit et être vraiment convaincu de pouvoir le faire.
La Suisse devra tourner la page des Jeux Olympiques ratés. Le sélectionneur Patrick Fischer a lancé une nouvelle dynamique en rajeunissant son groupe pour ce mondial.
C'est une autre équipe, on est plus jeune aux Jeux Olympiques, on est average 31 ans et maintenant on est plus ou moins 25 et on a beaucoup d'esprit, on a beaucoup de vitesse. Pas assez expérience comme l'autre équipe, mais on a beaucoup de feu. On doit prendre jour à jour, on doit être focusé et travailler dur et on est contente maintenant qu'on peut finalement commencer.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial en Finlande, Raphaël Chalvera. La Suisse lance son mondial demain face à l'Italie à 15h20. Le début des hostilités dans ce championnat du monde, c'est cet après-midi. La France affronte la Slovaquie et les États-Unis se frottent à la Lettonie à 15h20. Ce soir, à 19h20, l'Allemagne rencontre le Canada alors que la Finlande se mesure à la Norvège. La défaite n'affecte pas le moral de Stan Wawrinka. Le Vaudois a échoué face à son premier gros défi hier soir lors du Masters 1000 de tennis de Rome. Il a subi la loi du Serbe Novak Djokovic en 8e de finale. Le score est sans appel, 6-2-6-2. Un revers plus que logique alors que le Suisse n'est de retour sur le circuit que depuis quelques semaines. Stan Wawrinka sait que le chemin est encore long pour retrouver son meilleur niveau.
Dans l'ensemble, c'est un tournoi très positif, en tout cas par rapport à où j'étais il y a 2-3 semaines. Donc je vais continuer à travailler, continuer à progresser. Revenir après plus d'un an hors circuit, être blessé, 2 opérations, avoir repris le tennis seulement il y a quelques mois, ça prend du temps à remettre la machine en route, surtout à mon âge. Donc il faut que je continue ce que j'ai prévu toutes ces prochaines semaines, ces prochains mois, continuer à travailler dur, essayer d'avoir le bon mix entre les entraînements et la compétition, réussir à retrouver ce rythme qu'on a besoin en match aussi. Mais en même temps, continuer à s'entraîner physiquement. Je ne suis pas encore où j'aimerais être, comme je l'ai dit plusieurs fois, tennistiquement aussi, mentalement aussi. Et tout ça, ça se travaille. Et j'ai aucune crainte par rapport à ma capacité à travailler dur. J'aime ça. Je sais où je veux aller. Je sais qu'est-ce que je veux atteindre. Et pour ça, la route est encore longue.
Gilles Teichmann est désormais la dernière représentante suisse à Rome. La Biennoise joue son quart de finale ce soir vers 19h. Ce sera face à la Russe Daria Kasatkina. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon appétit si vous passez à table et bon week-end.